Les séminaires du Collège de France.
Bien, chers amis, j'ai le grand plaisir aujourd'hui d'accueillir dans le cadre du séminaire sur la nature humaine Laurent Jaffraud, professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre honoraire de l'Institut universitaire de France et membre de l'Institut des sciences juridiques et philosophiques de la Sorbonne. Les domaines de recherche et d'enseignement du professeur Jaffraud sont la philosophie morale et notamment la philosophie morale de langue anglaise. Il a beaucoup écrit aussi sur la psychologie morale, sur les pratiques réactives et les émotions telles que le pardon, la gratitude, le mépris, la honte, ainsi que sur les liens entre philosophie morale et théorie de l'action. Résolution, faiblesse de la volonté, contrôle diachronique de soi. Il est l'un de ceux qui, trop rares encore en France, ont permis la mise en lumière de l'importance de la tradition écossaise, issue des très grands philosophes du XVIIIe siècle. En particulier, on lui doit des travaux tout à fait remarquables sur Shaftesbury, Francis Hutcheson, Adam Smith, Hume, bien sûr, mais aussi Thomas Reed, et aussi le fait d'avoir insisté sur le dialogue à mener, qui est aussi une de mes préoccupations, entre les sentimentalistes et les rationalistes. Parmi ses très très nombreux écrits, on lui doit « Éthique de la communication et art d'écrire » Shaftesbury et les Lumières anglaises au PUF en 1998, qui fut couronné par le prix Saint-Ours de l'Académie des sciences morales et politiques, et pour ne citer que les plus récents, outre son très beau livre « La couleur du goût, psychologie et esthétique au siècle de Hume » chez Vrin en 2019, son ouvrage dont j'ai d'ailleurs parlé lors de mon cours de l'an dernier, « Le miroir de la sympathie, Adam Smith et le sentimentalisme » paru donc en 2024 chez Vrin, ou encore la codirection de l'ouvrage tout récent « La justice pénale aux frontières du pardon » au classique Garnier 2025. Je suis donc, comme vous tous, impatiente de l'écouter, nous parler de la nature humaine, une affaire de psychologie ou de rationalité. Cher Laurent, c'est à vous.
Je vous remercie vivement de votre invitation, chère Claudine. C'est l'occasion pour moi de vous exprimer ma reconnaissance pour ce que vous avez fait pour, et continuez de faire pour la philosophie et son enseignement à tous les niveaux de l'institution. Alors, comme je suis très discipliné, je m'en suis tenu au thème de ce séminaire sur la nature humaine et j'ai essayé de rassembler et tester quelques idées à partir de différents aspects de mon travail. Donc, conformément à la manière d'utiliser l'histoire de la philosophie que j'affectionne, je vais me placer non pas à l'intérieur de telle ou telle doctrine du passé, mais pour ainsi dire entre elles, dans un lieu fictif, à partir duquel je mets en discussion des auteurs de la tradition européenne et britannique, spécialement, et la philosophie aujourd'hui. Pour dire tout de suite où je vais, mon idée est assez simple. Au moins depuis le projet d'une science de la nature humaine, qui est commun à David Hume et à certains de ses contemporains, notamment Adam Smith, l'idée de nature humaine a pu servir à désigner un terrain d'enquête qui concerne non seulement les régularités dans les conduites humaines de tous ordres, pratiques, épistémiques, esthétiques, sociales de manière générale, mais aussi les irrégularités, les anomalies apparentes, tout ce qui n'est pas conforme à l'idéal d'un être rationnel et raisonnable. Il y a quelque chose de très remarquable dans les contours de la science de la nature humaine que propose Hume dans son traité. Il fait le tri, comme toute personne soucieuse de bien conduire son esprit dans la vie quotidienne comme dans l'activité scientifique, entre les conduites normales et les conduites irrégulières. Les conduites normales sont celles qui sont conformes aux normes de la conduite de l'esprit, notamment les formes d'évidence qui sont recevables, ce que Hume appelle des probabilités qui ne sont pas non philosophiques, qui sont philosophiques, qui sont des fondements, dit-il, raisonnables de la croyance, dans le traité 1, 3, 13. Et Hume les distingue des conduites irrégulières, notamment les probabilités non philosophiques, par exemple, les règles générales qui sont, ou qui peuvent être, au principe des préjugés. Mais, et c'est là le point important, Hume ne fait pas ce tri dans le but d'exclure ces conduites irrégulières de son objet. La science de la nature humaine n'est pas une épistémologie générale, une espèce de discipline normative, même si elle est cela sous un certain aspect ou en partie, et elle l'est sans doute plus visiblement d'ailleurs, cette épistémologie, dans les essais et enquêtes que Hume publie après le traité. La science de la nature humaine ressemble à une épistémologie, mais qui n'externaliserait, en tout cas ne déléguerait pas à une autre discipline, à une psychologie ou à une sociologie de la connaissance et de la croyance, le soin de rendre compte des phénomènes qu'on regroupe de manière commode sous le nom d'irrationalité. Un terme qui peut susciter des malentendus dont il sera question plus tout à l'heure. Le point est que ce sont les mêmes principes de la science de la nature humaine qui permettent d'expliquer la formation des croyances raisonnables comme celle des croyances déraisonnables. Mais on pourrait m'objecter que la science de la nature humaine, dans la formulation que lui donne Hume, est un mauvais point de départ pour une réflexion sur le concept de nature humaine. Pour la simple raison que tout lecteur du traité sait que l'usage que fait Hume de l'idée de la nature humaine n'est pas conforme à certains attendus qui sont attachés traditionnellement à cette notion. La nature humaine dont parle Hume n'est pas une nature spécifiquement humaine. Si l'être humain est bien un animal raisonnable, la manière humaine d'être un animal raisonnable n'a rien de fondamentalement différent de la manière dont certains animaux non humains peuvent avoir, selon Hume, des désirs, des croyances, des sentiments, des passions. La nature humaine n'a pas non plus de destination spéciale. Même si Hume ne saurait contester que la connaissance, l'amitié, la fréquentation des belles choses, le développement de certaines vertus intellectuelles, morales, esthétiques, sont de fait des biens importants pour les êtres humains, il n'y a pas de Dieu ou de nature qui aurait assigné à cet égard une tâche spéciale aux êtres humains aux yeux de Hume. Ils sont ainsi faits que ces choses sont généralement dans leur goût. En particulier, il n'y a pas de destination morale attachée à la nature humaine, alors même que naturellement, les êtres humains sont des êtres sociaux et moraux. Et bien évidemment, pour Hume, l'idée de nature humaine n'implique pas l'existence d'une essence attachée à l'espèce humaine, et cela alors même que les êtres humains, aux yeux de Hume, se ressemblent énormément à travers le monde connu, sauf ceux qui ne nous ressemblent pas et dont il conclut qu'ils ne sont pas vraiment des êtres humains. Bref, l'usage par Hume du terme « nature humaine » est particulièrement déflationniste, au moins sous les aspects que je viens de signaler, et se tourner vers lui pour réintroduire la notion dans le débat philosophique ne paraît pas une bonne idée. Je crois cependant qu'il y a une chose qui reste conforme aux attendus lié au concept de nature humaine, et pour moi c'est le point essentiel, sans dramatiser, c'est-à-dire sans confondre la nature humaine avec une condition. Ce terme de condition a une saveur existentialiste ou théologique, encore moins avec une condition dénaturée. On peut pointer que, même dans son usage chez Hume, et sans doute plus manifestement encore chez les auteurs qui, du même cercle ou qui le suivent, ou certains qui l'ont précédé, d'autres auteurs moins clairement anti-religieux comme Adam Smith, ou chez un Anglais dont je vais parler et qui a fait de la religion anglicane sa profession, Joseph Butler. L'idée de nature humaine, pour tous ces gens, est indissolublement celle des capacités, des pouvoirs et des incapacités des êtres humains. Incapacités de divers ordres, dont certaines sont relatives, rectifiables, dont d'autres sont évidemment plus difficiles à surmonter, voire impossibles à surmonter. En particulier, ce que nous appelons nature humaine réunit en un tout indissociable les pouvoirs des êtres raisonnables et les limites internes, psychologiques, de ces pouvoirs. Et de la même façon que la naturalité des pouvoirs n'empêche pas leur culture, au contraire, la naturalité des limites n'empêche pas leur régression ou leur progression. Donc je vais essayer de montrer que cette conception de la nature humaine, donc cette idée que, au fond, une motivation très importante de l'usage du concept de nature humaine, c'est qu'il invite à penser comme un tout indissociable les capacités et les incapacités. Je vais essayer de montrer que cette conception qu'on trouve chez des auteurs donc, que j'affectionne particulièrement, notamment Adam Smith, est toujours pertinente aujourd'hui, à l'heure où l'épistémologie fait l'effort de s'ouvrir à des interrogations sur des formes d'activité moins parfaites que la connaissance, voire apparemment défectueuses, ou à l'heure où la philosophie de l'action ou la philosophie des émotions également essaie de tenir ensemble, dans la compréhension de leurs objets, la présomption de rationalité, l'exigence de rationalité et des contingences psychologiques. Donc, je vais partir d'un auteur que Hume, curieusement, salue en note dans l'introduction du traité de la nature humaine, Joseph Butler, il le salue comme un de ceux qui ont mis sur un nouveau pied la science de la nature humaine parmi les modernes. Hume n'est, je pense, pas d'accord avec la conception qu'a Butler de la nature humaine, mais il en retient quand même quelque chose, c'est ce que je vais essayer de montrer, et il en va de même pour Adam Smith. Donc ça sera mon point de départ. Ensuite, pour clarifier la distinction entre les deux points de vue, le point de vue psychologique et le point de vue de la rationalité, nous aurons un petit interlude platonicien avec un passage du Protagoras. Et dans un deuxième temps de mon exposé, j'essaierai de montrer à partir de quelques exemples comment la motivation de l'usage du concept de nature humaine tel que je la présente persiste aujourd'hui en philosophie. Cette conception de la nature humaine hein, qui insiste sur le tout indissociable des capacités, des incapacités, des pouvoirs et de leurs limites peut être dite constitutionnelle. C'est un terme qu'on trouve chez tous ces auteurs. Ce n'est pas une conception nouvelle. On la trouve bien formulée chez Joseph Butler qui va être mon point de départ. Les sermons de Butler ont une influence très très considérable sur la philosophie britannique et plus généralement anglophone, la philosophie morale en particulier. Dans le domaine francophone, ça reste tout à fait discret. Alors, bon, donc ce sont des sermons, mais en réalité, Butler procède à des analyses philosophiques extrêmement fouillées. Et il y a un groupe de 3 sermons qui s'intitule « Sur la nature humaine ». Et donc le sermon 2 propose une analyse des divers sens dans lesquels on peut dire qu'une conduite est naturelle. Butler commente Romains 2,14, donc les païens agissant en vertu de la nature et non par la loi, parce que sans connaissance de la loi, ils peuvent néanmoins agir en conformité avec elle. Donc, Butler essaie de comprendre, d'éclairer ce que veut dire naturellement ici. Il dit que ça peut se comprendre de 3 façons. Ça peut renvoyer d'abord à un principe quelconque, une motivation qu'on trouve en soi, par exemple, telle passion, telle disposition affective. La deuxième manière de le comprendre, c'est une disposition ou passion la plus forte, celle qui influence le plus l'action ou qui l'emporte. Et enfin, une troisième manière, une faculté supérieure, ce qu'il appelle la réflexion ou la conscience. Alors, le terme réflexion est plus général, que conscience. Conscience, il ne s'agit pas de consciousness, mais de conscience, c'est une notion morale. Et donc la réflexion, c'est un peu plus général, ça peut inclure l'amour de soi raisonnable et le sens, donc la prudence ou le sens de son intérêt à terme. Donc l'idée de Butler, c'est que ce qu'on appelle nature humaine, en réalité, est un système, c'est un tout complexe qui repose sur différents principes. Et donc, en fait, ces trois sens de la nature doivent être conservés. Le sens le plus important, c'est le troisième. C'est la tâche, c'est la destination de cette faculté supérieure que de veiller à l'équilibre entre ces diverses déterminations. Et donc, pour bien montrer qu'il y a, alors qu'il n'y a que des différences de degré ou de force entre les deux premières compréhensions de la nature, pour la troisième, c'est tout à fait autre chose. Butler écrit ceci: l'homme peut agir selon le principe ou l'inclination qui se révèle être la plus forte à un moment donné, et pourtant agir en désaccord et en infraction avec sa vraie nature. Et il prend cet exemple, l'exemple de la rash action, par laquelle on préfère une gratification immédiate à une gratification différée, alors qu'on peut prévoir que la première entraîne sa propre ruine future. Donc on est parfaitement avisé des conséquences contraires à la prudence. Donc agir selon cette préférence pour le présent est naturel au deuxième sens, fait observer Butler, mais est contre nature au troisième sens. Donc cet exemple de la préférence pour le présent reviendra dans mon exposé. C'est l'exemple typique des limites constitutionnelles qui sont attachées à la nature humaine chez tous ces auteurs. Alors, Hume rejette complètement cette idée que la nature humaine soit un système hiérarchisé à la tête duquel se trouve cette faculté supérieure, ou que ces idées nous informent de manière fiable sur ce qu'est la nature humaine. Hume est absolument sceptique à ce sujet. Il va plus loin que le scepticisme. Il nie que la conscience, qu'il existe quelque chose comme la conscience qui puisse avoir une telle autorité. Mais néanmoins, il y a quelque chose que Hume retient, ce sont les remarques de Butler sur les perturbations de certaines dispositions affectives par d'autres, par des passions, et également l'importance que donne Butler à ces exemples de conduite qu'on peut dire irrationnelles, comme celle de l'impatience extrêmement imprudente. Donc ce que je vais retenir de Butler, c'est avant tout ça. Alors, Butler, en un sens, est une des cibles de Hume. Le passage fameux dans lequel Hume formule ce qu'on appelle parfois la loi de Hume ou la guillotine de Hume, c'est-à-dire la dénonciation de la faute de raisonnement qui consiste à partir de prémices purement descriptives pour arriver à une conclusion prescriptive. Donc cette faute de raisonnement semble être commise par Butler quand il décrit sa propre méthode. Il situe sa propre méthode par rapport à celle des auteurs rationalistes ou des théoriciens du droit naturel ou de la loi naturelle. Et donc il écrit cette chose. Donc sa méthode à lui consiste à partir d'un fait, à savoir ce qu'est la nature particulière de l'homme, ses différentes parties, leur économie ou constitution. À partir de là, donc sa méthode détermine quelle est la manière de vivre qui correspond au tout de sa nature. Donc là, c'est clairement le genre de choses que Hume rejette, même si en réalité Butler ne commet pas nécessairement la faute de raisonnement, puisque le point de départ, le fait qu'est la nature particulière de l'homme, est un fait normatif dans la présentation de Butler, puisqu'il y a une destination morale de l'homme qui est donnée. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que comme on va le voir, les limitations psychologiques de la prudence sont replacées chez Butler dans un cadre téléologique. En un sens, s'il est imprudent d'être impatient, le fait que nous ayons cette tendance à l'impatience pourrait être éclairé de manière téléologique, et un auteur n'hésitera pas à supposer que cela peut avoir des effets bénéfiques et à le rapporter à une prudence supérieure, une prudence apparente, celle de Dieu. C'est Adam Smith, et donc j'en parlerai dans un instant. Alors Hume, lui, ne retient pas ce genre de... comment dire, ne développe pas ce genre de spéculation, même si, dans le cadre mécaniste qui est le sien, il tient parfois un langage qui s'en rapproche. Alors, j'en viens au point qui est le plus intéressant pour le projet de trouver la motivation de cet usage du concept de nature humaine. Ce sont les remarques de Butler sur le fait que les limites et faiblesses des êtres humains font partie de la nature humaine, et d'ailleurs elles n'ont pas nécessairement des effets maléfiques. Elles ont généralement des effets indésirables, mais l'économie de la nature globalement est beaucoup plus complexe, et d'où les considérations téléologiques. Alors un exemple, c'est il y a deux sermons sur la compassion. Dans le premier sermon, Butler en fait commente Romains 2,15: réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Et il dit que le conseil important, c'est de pleurer avec ceux qui pleurent, et pas de se réjouir avec ceux qui se réjouissent, parce que ceux qui se réjouissent n'ont pas besoin qu'on se réjouisse avec eux, tandis que ceux qui pleurent, hein, s'ils ont de bonnes raisons de pleurer, ont besoin de notre assistance. Donc c'est son thème principal. Il y a un devoir de pleurer avec ceux qui pleurent, il n'y a pas de devoir de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il constate d'ailleurs que nous n'avons pas de mots pour la disposition affective à partager la joie d'autrui, alors que nous avons des mots pour la disposition affective à partager ses malheurs. Il observe qu'en anglais, congratulation est bien la contrepartie de condolence, mais ces mots, dit-il, sont supposés signifier des formes de civilité, qu'on gratte féliciter quelqu'un ou lui présenter ses condoléances ou exprimer sa sympathie, plutôt qu'une sensation, dit-il, ou un sentiment interne. Et cela reflète une dissymétrie dans notre constitution affective dont je vais parler. Alors donc l'argument est le suivant. Du point de vue de la rationalité, donc c'est là qu'on voit qu'il y a une distinction entre le point de vue de la rationalité et celui de la psychologie, en fait, pour Butler. Du point de vue de la rationalité, eh bien, il y a une première raison de ne pas avoir de compassion, c'est que c'est imprudent. S'intéresser au sort d'un malheureux, c'est s'exposer à le partager, c'est imprudent. Et la deuxième raison, c'est que ce n'est pas la meilleure manière d'améliorer son sort. La raison et le devoir motivent et justifient l'aide qu'on lui apporte, c'est bien meilleur et bien plus fiable et stable que si on s'en remet à la compassion. Et donc ces deux considérations de rationalité sont défaites par des considérations à la fois psychologiques et téléologiques. La première, la considération psychologique, c'est que la raison seule n'est pas en réalité un motif suffisant de vertu dans une créature telle que l'homme. Et la seconde, c'est que les passions font partie de ce qu'il appelle notre condition de nature. Se débarrasser de ces passions serait une infraction contre la constitution qui nous a été donnée par Dieu. Donc la conclusion de les remarques finales de Butler sur ce point, c'est que c'est quand c'est la dissymétrie dans notre constitution affective, la compassion s'accompagne de la tendance à venir en aide à autrui dans la détresse. Et il s'agit d'une situation dans laquelle on a besoin d'aide, ce qui n'est pas le cas de la situation de bonheur. Et donc, c'est très heureux globalement, c'est ça la considération téléologique. Cette dissymétrie ne peut pas s'expliquer en termes de rationalité, mais elle peut être pensée, donc la dissymétrie entre compassion et puis le partage de la joie d'autrui ou de son bonheur, elle peut être pensée seulement en termes téléologiques. Alors, ces considérations téléologiques sont aussi celles d'Adam Smith, même si je crois que chez Adam Smith, c'est plus une manière de présenter les choses qu'une véritable apologétique d'une providence. Il ne s'agit pas d'une religion naturelle, mais je laisse ça de côté. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont Adam Smith développe ce thème. Le type d'approche qu'on vient de voir avec Butler fait merveille dans la théorie des sentiments moraux. Les diverses formes d'irrationalité pour Smith ne sont pas rares, cette irrationalité est limitée, elle est intégrée à une nature humaine qui est caractérisée d'abord par des capacités d'évaluation qui sont globalement fiables. Chez ces auteurs, l'irrationalité est aussi limitée que la rationalité. Elle se limite mutuellement. Je vais simplement rappeler une liste de phénomènes dont parle beaucoup Smith, qu'on pourrait appeler, en utilisant les mots de Smith, irrégularité et influence. D'abord, la préférence pour le proche, dont il a déjà été question tout à l'heure avec Butler. Le phénomène de perturbation des plaisirs et des peines par des passions, l'exemple typique, c'est celui de la manière dont notre admiration pour les riches, qui repose sur la sympathie pour la joie, qui est plus agréable que la sympathie pour la peine, est perturbée, cette admiration, par l'effet de l'envie. Il y a d'autres exemples de ce type-là. une autre forme d'irrationalité tient à la motivation importante pour Smith qu'il appelle l'amour du système. Donc c'est aussi ce qu'il appelle le goût pour la beauté ou l'apparence d'utilité ou la beauté de l'apparence d'utilité. Il ne s'agit pas du tout du goût pour l'utilité au sens de l'instrumentalité. Non, simplement, il s'agit du goût pour les organisations, pour ce qui est apparemment très concerté, donc les systèmes, les machines. Et c'est ce qui conduit les philosophes à s'adonner, à abuser de la systématicité. Donc c'est responsable de l'esprit de système. Smith prend l'exemple des théories contractualistes en politique. Donc il estime que ils sont complètement en décalage avec la réalité, mais qu'elles reposent sur une systématisation à outrance. Donc c'est ce qui motive l'activité scientifique, mais aussi ses dérives. Une forme très importante, c'est l'influence de la fortune également. Donc ça repose sur l'idée générale. Donc l'idée générale de Smith à ce propos est que la considération du résultat ne devrait pas rationnellement affecter l'évaluation de la valeur de l'agent, car le résultat ne dépend pas assez de l'agent pour cela. Donc si on veut évaluer les dispositions d'un agent, dans la mesure où les résultats de ses actions motivées par ce type de disposition ne dépendent pas suffisamment de l'agent, sont exposés à la fortune, eh bien il n'est pas rationnel d'évaluer les dispositions à partir des résultats. Mais précisément, ce qui se passe dans les faits, c'est que nos évaluations sont influencées par les considérations de fortune. Par exemple, l'intention criminelle inaboutie n'est pas punie aussi sévèrement que l'intention réalisée, alors qu'elle devrait l'être au regard des normes du crime et de la peine. Donc, c'est ce que Smith appelle l'irrégularité de sentiment. Et donc, ces phénomènes qui sont des perturbations de la conduite normale, non seulement font partie, sont attribués par Smith à notre constitution, à la nature humaine telle qu'elle est, aussi bien que nos capacités que nous dirions rationnel. Smith rend vaguement compte de cette union dans la nature humaine entre ces deux aspects, l'aspect psychologique et l'aspect de rationalité, par des considérations téléologiques qui renvoient non pas à la justice de Dieu, mais plutôt à sa sagesse, au soin qu'il a pour l'intérêt de l'espèce humaine à long terme. Ainsi, on peut lire « Nous pouvons admirer la sagesse et la bonté de Dieu, même dans la faiblesse et la folie des hommes. » Et d'ailleurs, ces considérations sont même appliquées par Smith à la préférence pour le proche. La préférence pour le proche présente des inconvénients bien connus et même, le dit Hume dans un texte que je citerai tout à l'heure, elle entraîne des erreurs fatales. Et cependant, Smith dit qu'elle peut être vue aussi comme une sage disposition de la nature dans certains cas. La préférence pour le proche peut être salutaire dans certains cas. L'exemple que donne Smith est le suivant. Eh bien, il est heureux que nous n'ayons pas de soucis ou très peu de préoccupations pour des malheurs éloignés, par exemple pour les malheurs d'étrangers, de personnes très lointaines. Si ce n'était pas le cas, notre préservation serait sans doute plus difficile. Donc cette préférence pour le proche, c'est un cas d'irrationalité qui a fait surface dans la littérature philosophique des Platon. Et ça va être l'objet de mon interlude. Donc simplement pour le plaisir de relire quelques lignes du Protagoras. Donc le point de départ du passage en question, en 352 AC, n'est pas une discussion sur la nature humaine, mais c'est en gros la question, le savoir épistémé est-il assujetti aux plaisirs et aux peines et aux passions, ou au contraire, peut-il et doit-il être le maître des plaisirs et des peines et des passions? Et cette question peut recevoir une réponse de fait ou une réponse de droit. Je veux dire le savoir, la question le savoir est-il assujetti aux plaisirs et aux peines et aux passions? On peut y répondre par des considérations de fait ou des considérations de droit. Nous pourrions précisément invoquer la nature humaine pour donner aussi bien la réponse de fait que la réponse de droit. Et d'ailleurs, c'est dans l'usage courant de l'expression, enfin de l'idée de nature humaine, très souvent, ça sert aussi bien à indiquer ce qui est normal, naturel en un sens normatif, que ce qui est normal en un sens statistique ou factuel. Mais Socrate ne parle pas de la nature humaine, Socrate et Protagoras ne parlent pas de la nature humaine dans leur discussion, et c'est ce qui est intéressant. Donc voici le passage, si quelqu'un déclare, donc c'est Socrate qui parle, « Mais Socrate, il y a une grande différence entre ce qui est agréable sur le moment et ce qui est agréable ou pénible par la suite, je dirais, moi, en quoi y aura-t-il différence sinon en plaisir et en peine ?» car il n'y en a pas d'autre. Comme un homme qui sait peser, rassemble donc ce qui est agréable et rassemble ce qui est pénible, met dans la balance les effets immédiats, les effets à long terme, et dis-moi quel côté l'emporte, etc. C'est-à-dire que, donc, devant le fait de la préférence pour le présent, ou pour le proche, Socrate répond que ce fait n'a pas à être prise en compte et n'empêche pas un calcul correct des plaisirs et des peines. Donc la réponse de droit qui est donnée par Socrate consiste à découvrir la rigueur et la puissance d'un art de la mesure. Il y a un calcul rationnel des valeurs et le poids respectif des valeurs se détermine sans être affecté par la situation temporelle. Ce n'est pas affecté par la différence entre une valeur présente immédiatement et une valeur considérée à terme. Du point de vue de l'art de la mesure, il n'y a pas de différence de valeur à cet égard. Regardons simplement la fin du passage. S'il en est ainsi, c'est toujours Socrate qui parle, répondez-moi, dirais-je, les mêmes grandeurs vous paraissent à la vue plus grandes de près et plus petites de loin ou non? Ils diront que oui. Même chose pour les épaisseurs et les quantités, et même des sons équivalents paraissent plus forts de près et moins forts de loin, ils en conviendraient. Si donc nous considérions que l'activité réussie consistait à choisir dans nos actions les grandes dimensions et d'éviter dans nos actions les petites dimensions, qu'est-ce qui manifestement assurerait la sauvegarde de notre vie? Est-ce l'art de la mesure ou la puissance de l'apparence? Socrate nous place devant une alternative. C'est soit la pratique de l'art de la mesure, soit la soumission à la puissance de l'apparence. Le fait psychologique de la préférence pour le proche et spécialement pour le présent fera la fortune, donc qui est mentionné, dont il est question ici explicitement, c'est ce qui fera la fortune de Hume et d'Adam Smith et d'autres auteurs, et au XXe siècle, de Herbert Simon, et sans parler de tous les protagonistes de l'économie comportementale. Socrate, lui, suggère qu'il y a un choix à faire, céder aux apparences ou bien pratiquer l'art de la mesure. C'est en l'absence de pratique de l'art de la mesure, en l'absence de savoir, donc en ce sens sous l'effet d'une ignorance, que nous estimons mal les plaisirs et les peines, les biens et les maux. Il ne semble pas que Socrate ait considéré que les limites psychologiques de nos capacités d'évaluation que ces limites psychologiques d'une part, et d'autre part, nos capacités rationnelles elles-mêmes constituaient un tout indissociable, ni dans la pratique, ni dans la théorie. En fait, il y a une alternative et il n'est pas question d'une indissociabilité ou d'une articulation, d'une unité entre nos capacités rationnelles et puis ces limites psychologiques. Bien au contraire, la perspective du savoir, de l'art de la mesure, est celle d'une libération de ces limites. Donc la puissance de l'apparence et l'art de la mesure sont complètement hétérogènes. Socrate adopte ce que Herbert Simon appellera évidemment le modèle olympien de la rationalité. Bref, le Protagoras distingue très nettement le point de vue de la rationalité et le point de vue psychologique, mais sans présenter leur unité ou leur articulation, précisément, je crois, parce qu'il ne les rapporte pas à une nature humaine, à une constitution humaine qui offrirait ce double visage. Donc, je pense que c'est très, très cohérent avec l'absence de propos sur la nature humaine. Alors, bien sûr, vous pourriez m'objecter que ma rubrique, là, avant la nature humaine, le Protagoras, est un effet de manche, parce que dans le même dialogue, il est question, dans la bouche de Protagoras, du mythe de Prométhée et d'Épiméthée, et que ce mythe peut fournir un cadre pour penser une nature humaine par des défauts de qualité naturelle et des suppléments techniques, des remèdes volés par Prométhée aux dieux ou donnés par les dieux. Et donc, il y aurait sans doute à creuser de ce côté. Mais comme je vais faire comme Socrate, Socrate laisse cela de côté, précisément. C'est le mythe de Protagoras, ce n'est pas le mythe de Socrate. Quoi qu'il en soit, Hume, Adam Smith et les autres rapportent tout cela ensemble à la nature humaine. Donc, dans la deuxième partie de mon exposé, je vais essayer de donner quelques exemples de cette intrication des capacités rationnelles et des limites psychologiques dans cette constitution qu'est la nature humaine, dans différents secteurs de la philosophie aujourd'hui. Alors, je vais commencer par quelques remarques sur le projet de Kassim Kassam dans son livre « Self-Knowledge for Humans ». Et ensuite, je prendrai un ou deux exemples du côté de la philosophie de l'action, de la philosophie des émotions. Donc, selon Kassam, l'épistémologie doit tenir compte de et même pleinement intégrer les limitations cognitives et ce qu'il appelle les faiblesses humaines. Et d'ailleurs, ces limitations cognitives et ces faiblesses font partie de ce qui est l'objet d'une véritable connaissance de soi. Ce qui m'intéresse dans son approche est que les limitations de nos pouvoirs épistémiques, qui font la distance par rapport à des êtres humains, par rapport à l'idéal de l'agent épistémique, ces limitations ont quelque chose d'humain, trop humain, comme il le dit dans son livre. Pour autant, Kassam rejette le pathos ou la dramatisation de l'irrationalité. Et sur ce point, il reste comment dire, il est plus explicite encore que son modèle du côté de l'économie comportementale, qui est Daniel Kahneman, qu'il cite souvent, puisque Kassam essaie de faire pour une épistémologie pour les humains tels qu'ils sont, et pas pour l'homo philosophicus, de la même façon que Daniel Kahneman a proposé une économie pour les humains tels qu'ils sont, et non pas pour ces êtres qu'il appelle les écons. Donc ces auteurs se méfient du discours sur l'irrationalité. Je vais tout de suite d'ailleurs citer le propos de Kahneman sur ce point. Kahneman écrit ceci: « Irrationnel est un mot fort qui connote l'impulsivité, l'émotivité et la résistance opiniâtre aux arguments raisonnables. Nos recherches ont seulement montré que le modèle de l'agent rationnel est mal adapté à l'homme. » C'est le modèle de l'agent rationnel est globalement correct, mais il s'applique mal aux êtres humains. Et Kahneman, donc, dans Thinking Fast and Slow, étudie, donne plusieurs exemples de cette mauvaise adaptation, mais il se plaint d'avoir été mal compris, comme s'il avait voulu simplement mettre en avant l'irrationalité. C'est pour cette raison qu'il fait cette remarque sur le terme. En fait, c'est une erreur semblable que celle de caractériser la nature humaine comme plutôt irrationnelle, semblable à celle qui penserait à la nature humaine à partir d'un idéal de l'agent épistémique. Alors, je reviens à Kassam. Ce qui est intéressant, c'est la modération de sa position. Hein. Il rejette aussi bien d'un côté le pathos de l'irrationnel que de l'autre ce qu'il appelle le rationalisme psychologique et le rationalisme normatif. Alors, en faisant ces distinctions fines entre ces deux formes de rationalisme, il met le doigt, je trouve, sur une question qui est particulièrement intéressante pour nous. Donc, qu'est-ce que c'est que le rationalisme psychologique ? C'est la thèse selon laquelle les êtres humains ne sont pas des agents épistémiques idéaux, mais c'est un fait qu'ils s'en approchent. Donc, c'est une thèse descriptive. Et le rationalisme normatif se formule de deux manières différentes. Il consiste à dire que les êtres humains sont supposés ou bien devraient avoir une conduite épistémique qui s'approche de celle d'agents idéaux. Le devoir, donc selon qu'on adopte la première formulation ou la deuxième, les difficultés ne sont pas les mêmes, mais le devoir dans la deuxième formulation, ce n'est pas un devoir moral, comme le remarque Kassam, c'est un devoir téléologique, à savoir qu'il s'agit de la nature, d'accomplir une nature. Kassam rejette ces deux formules, il rejette aussi bien le rationalisme psychologique. Il pense que c'est une erreur de penser qu'il soit dans la nature des êtres humains de s'approcher de cet idéal. Et pour le rationalisme psychologique, comme c'est une thèse empirique, il dit qu'elle s'expose à la réfutation. Il s'appuie beaucoup sur les résultats de l'économie comportementale, pas pour montrer que les êtres humains sont des animaux irrationnels, pas plus qu'ils ne sont idéalement rationnels. Ils sont capables de faire des choix irrationnels. Alors, ce que je retiens de cette discussion, dont je ne peux pas restituer tout le contexte, c'est que il y a plusieurs manières ici de parler de la nature humaine. Il y a une manière qui est normative, en un sens non pas moral, mais téléologique. Il y a une autre manière qui est également normative, mais qui renvoie à une thèse sur la nature essentielle des êtres humains. Et ça, ça correspond à ce que Matthew Boyle appelle la vision classique de la nature humaine dans un article pour nous très intéressant, Essentially Rational Animals. Dans cet article que cite Kassam, Matthew Boyle caractérise une des formes du rationalisme normatif comme une thèse à propos de la nature essentielle des êtres humains. Selon cette thèse, il est normal, non pas en un sens statistique, mais relativement à l'essence des êtres humains, qu'ils aient une conduite épistémique qui s'approche de celle d'agents idéaux. Et évidemment, c'est compatible avec de nombreuses exceptions. Je reviendrai sur les propositions de Boyle dans ma conclusion. Le projet de Kassam, c'est d'avoir une épistémologie pour les humains tels qu'ils sont, qui intègre aussi bien le point de vue de la rationalité que le point de vue des limites et des faiblesses. Alors, si on se tourne maintenant vers des choses sans doute mieux connues, en particulier au Collège de France, puisque à la chaire rationalité et sciences sociales, Jon Elster avait donné tout un enseignement sur ces thèmes. On dispose d'un livre, L'irrationalité, en 2010, dont le titre ne doit pas suggérer que l'auteur Elster pense que l'être humain est irrationnel, mais simplement qu'il est rationnel d'une manière qui le rend susceptible de choix et conduite irrationnelle. Donc il y a eu toute une littérature dans la deuxième moitié du XXe siècle, à la suite de travaux de psychiatres, de psychologues, à la suite également du développement de l'économie comportementale, qui tend à montrer que il y a des comportements humains qui ne peuvent pas être prédits par la théorie du choix rationnel, mais qui sont cependant prédictibles par les sciences sociales. La théorie du choix rationnel à elle seule ne suffit pas à rendre compte de l'ensemble de ces comportements, et on doit tenir ensemble les deux points de vue des capacités rationnelles et des limites psychologiques. Donc il y a toute une littérature sur ce point, et en particulier les résultats d'auteurs comme George Ainsley, d'autres auteurs également sur le discount hyperbolique et les renversements de préférence, les inversions de préférence en vertu du seul passage du temps, ont été utilisés par les philosophes, et notamment par Elster, pour rendre compte de phénomènes comme la faiblesse de volonté, alors à travers le temps. Et plus récemment, dans la philosophie de l'action, ces résultats psychologiques ont été en quelque sorte intégrés à la perspective de la philosophie de l'action, qui est d'abord la perspective de la rationalité. Et si vous voulez regarder des choses sur ce point, vous pouvez consulter l'ouvrage collectif dirigé par Carla Bagnoli il y a quelques années, Time in Action, où il est question de ce genre de choses. Je signale simplement que, puisque Claudine Tiersena avait la gentillesse de l'indiquer quand elle m'a présenté, que mon travail sur le pardon et sur la punition légale repose sur une théorie processuelle, donc sur l'idée que ce genre de choses, le pardon et la la punition et d'autres choses du même type sont des processus qui sont adaptés à des agents qui sont à la fois rationnels et faibles, et cela constitutionnellement. Donc je pense que c'est le genre de considération qui peut avoir aussi des suites du côté d'une philosophie, d'une sorte de phénoménologie morale, et aussi, mais aussi d'une philosophie normative et spécialement morale. Alors, comme il me reste peu de temps, je vais peut-être dire quand même quelques mots d'un exemple emprunté à la théorie des émotions. Alors, la théorie des émotions des philosophes actuellement s'informe beaucoup des travaux des psychologues. Globalement, elle reste extrêmement soucieuse d'appliquer aux émotions, au fond, le même type de des types de questions dont on est familier dans l'épistémologie et la philosophie de l'esprit. Donc, souvent, les psychologues considèrent que la théorie des émotions des philosophes est très est normative. Et peut-être intellectualiste, on entend ce mot qui repose sans doute sur des malentendus. Kassim Kassam, dans son livre Self-Knowledge for Humans, prend à plusieurs reprises comme exemple de faiblesse le phénomène des émotions récalcitrantes, comme la peur de l'araignée, dont je sais pourtant qu'elle est inoffensive. Et il est vrai que le cas des émotions fournit de nouveaux exemples pour ce type de littérature. Alors, je m'appuie simplement sur un article de Fabrice Théroni et Julien Déona, qui est déjà ancien. Ils ont écrit beaucoup de choses depuis sur les mêmes objets. C'est leur méthode qui m'a beaucoup intéressé dans cet article. Ils essaient de rendre compte d'un point particulier, qui est la distinction entre la honte et la culpabilité. Donc la culpabilité, en fait, c'est le sentiment de culpabilité. On n'a pas de mot en français pour ça. En anglais, on dit « guilt ». C'est subjectif, en fait. Donc, dans un souci de typologie qui est assez typique de la philosophie contemporaine des émotions, ils essaient de trouver les bons critères de distinction et ils partent de la littérature. Et il se trouve qu'il y a quatre caractérisations, quatre thèses qu'on rencontre dans la littérature à propos de la distinction sur la honte et la culpabilité. Et elles ne semblent pas aller ensemble de manière satisfaisante, donc il y a une grande contrariété. Voici ces quatre truismes à propos de la honte et de la culpabilité. Premièrement, la honte est une émotion de la sanction sociale. La culpabilité est en rapport avec une sanction interne. Deuxièmement, donc c'est une thèse complètement, enfin apparemment indépendante, hein. La honte est focalisée sur le soi de manière globale, sur ce qu'on est, tandis que la culpabilité est focalisée sur ce qu'on fait ou ce qu'on a fait, sur l'action. Troisième thèse, dans la honte, ce sont des idéaux du soi qui sont ébranlés, tandis que dans la culpabilité, il s'agit de la transgression d'un interdit. Et quatrièmement, la culpabilité est orientée vers les autres et la honte est orientée vers soi. Donc vous remarquez que la première et la quatrième thèse semblent se contrarier, voire se contredire. Et donc, ce que font Déona et Théroni dans cet article, ils s'appuient sur une distinction entre ce qui est typique et ce qui est constitutif à propos des propriétés, entre des propriétés typiques et des propriétés constitutives, là, de la honte et de la culpabilité. Une propriété est typique d'une espèce quand quasiment tous les individus de l'espèce concernée présentent cette propriété, mais qu'un petit nombre ne la présente pas. Et donc cette propriété ainsi typique n'est pas constitutive, parce que si elle l'était, tous les individus présenteraient cette propriété. Donc il semble que cette distinction, enfin que le constitutif ce soit en quelque sorte l'essentiel, en tout cas ça renvoie à l'essence de l'espèce. Sur ce point, je renvoie à un article d'Isaac Willem, 2022, Typical, A Theory of Typicality and Typicality Explanation. C'est ce genre de distinction que Deona et Théroni utilisent. Et donc, ils vont montrer que simplement les thèses 1 et 4, rendre compte de propriétés typiques des émotions de honte et de culpabilité, et que les thèses 2 et 3, elles, rendent compte de propriétés constitutives. Et il n'y a pas de, contradiction entre la thèse 1 et la thèse, ou le critère 1, ce sont des critères en fait, le critère 1 et le critère 4, oui, j'aurais dû dire les choses peut-être plus simplement. Il s'agit de quatre critères de distinction entre honte et culpabilité. Le premier critère concerne les contextes de formation de la honte et de la culpabilité, et le quatrième critère concerne la motivation ou les tendances à l'action de la honte et de la culpabilité respectivement. Donc ça ne concerne pas les mêmes choses, c'est pour cette raison qu'ils ne se contredisent pas. Donc pour Deona et Théroni, ce qui est important, c'est les deuxième et troisième critères qui disent-ils, se renforcent l'un l'autre. Ils semblent liés l'un à l'autre. Et donc, une leçon aussi de leur analyse, qu'on retrouve dans leur livre « In Defense of Shame », c'est que bien sûr, la honte est typiquement sociale, mais elle ne l'est pas de manière constitutive. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que la honte n'est pas une émotion, n'est pas nécessairement une émotion de l'hétéronomie ou de la soumission. Donc pour eux, ce sont des considérations très importantes. Alors, en fait, l'idée que certaines propriétés sont simplement typiques dépend du regard de la psychologie, en fait. Le regard de la psychologie, c'est précisément la recherche de ces propriétés typiques. Les philosophes s'intéressent davantage aux propriétés constitutive, et c'est le regard de la rationalité, puisque le critère numéro 3 porte sur les objets formels des émotions de honte et de culpabilité, c'est-à-dire sur les valeurs qui doivent être présentes ou qui doivent manquer, puisque là c'est plutôt négatif, pour que ces émotions de honte et de culpabilité soient correctes. Mais dans cette approche, donc vous voyez, on a vraiment les deux approches, hein, les deux regards. Même la philosophie ne peut pas se passer d'une description des propriétés typiques. Et j'en veux pour preuve le traitement de contre-exemples comme le cas classique qui est repris dans l'article et qu'on ne manque pas de rencontrer dans tout article sur ces sujets, en fait, qui est la culpabilité des survivants. Comment se fait-il qu'il y ait un sentiment de culpabilité chez des gens qui, en tant que survivants, ne sont pas coupables, mais au contraire, d'ailleurs, innocents et même de manière victime. Et donc, pour expliquer le phénomène de culpabilité des survivants, Deona et Théronie se demandent comment ce sentiment se forme, c'est-à-dire passe à des considérations, cette fois psychologiques. Donc ça me semble typique de l'état actuel de la philosophie des émotions, qui a, comme l'épistémologie selon Kassam, besoin de conjuguer le regard de la rationalité et le regard des limites et des faiblesses relatives. Donc j'étais parti de Hume avec cette philosophie des émotions. On est beaucoup plus proche de Brentano que de Hume, et en tout cas on est très éloigné de l'associationnisme que Hume appliquait aux émotions. Et cependant, il y a quelque chose qui reste quand même humien, c'est précisément cette façon de combiner l'approche normative et l'approche psychologique, il me semble. J'en viens à ma conclusion, je crois qu'il est temps. À quoi bon défendre une conception constitutionnelle de la nature humaine ? Qu'est-ce que ça change au fond, hein? Qu'est-ce que ça change de dire que on a besoin du concept de nature humaine entendu comme une constitution dans les sens que j'ai indiqués, parce que il nous faut conjuguer le regard de la rationalité et le regard de la psychologie. Alors je pense que c'est quelque chose qu'a bien vu, bien formulé Matthew Boyle, dont je tiens à citer un peu longuement le passage suivant. La manière d'évaluer l'affirmation que l'être humain est un animal rationnel n'est pas de se demander si les êtres humains, pour la plupart, exposent de manière probante les raisons de leurs croyances, font des inférences conformes aux lois de la logique et de la probabilité, ou choisissent conformément aux principes de la théorie de la décision. La manière d'évaluer de telles affirmations consiste plutôt à poser la question des types de pouvoir exercés dans la pensée humaine, de ce qui devrait être considéré comme leur fonctionnement normal, et de ce qui devrait être considéré comme des dysfonctionnements nécessitant une explication particulière. L'affirmation selon laquelle ces pouvoirs appartiennent à la nature humaine est tout à fait cohérente avec l'observation que nous échouons très souvent dans leur exercice. Donc je ne saurais dire mieux. D'abord, vous remarquez que pour Boyle, comme pour Hume, c'est au fond la même discipline qui s'efforce de comprendre quel est le fonctionnement aux normes, hein, l'exercice normal des pouvoirs de l'esprit, et d'expliquer les dysfonctionnements, les irrégularités et les régularités ne renvoient pas, ne sont, comment dire, elles doivent être examinées. L'examen des régularités ne peut pas se dispenser d'une explication sur la formation des irrégularités. Et deuxièmement, la caractérisation de la nature humaine comme une dotation en pouvoir n'est pas incompatible, mais dit-il, tout à fait cohérente avec l'observation que nous échouons très souvent dans leur exercice. Et donc, un des avantages de cette vue intégrative, hein, de cette constitution faite à la fois de capacité et d'incapacité relative, c'est qu'elle signale l'importance de notre responsabilité à l'égard de l'exercice de ses pouvoirs. Donc, qu'est-ce que cela change ? Cela change peut-être seulement notre vue sur la question. Il faut peut-être cesser de se demander, comme on le fait depuis au moins les moralistes de l'âge classique, si on doit avoir une vue optimiste ou une vue pessimiste de la nature humaine. Jadis, les pessimistes voyaient l'amour-propre partout et les optimistes, la bienveillance partout. Aujourd'hui, les pessimistes voient l'irrationalité partout et les optimistes, la rationalité partout. L'idée de nature constitutionnelle, de nature humaine comme constitution, peut servir de guide pour comprendre que la rationalité s'exerce dans des contextes sur lesquels pèsent des contraintes des contextes qui sont affectés par des limites, des limites qui sont aussi bien internes qu'externes. Ces contraintes et ces limites ne sont pas nécessairement connues des agents concernés, alors même que dans de nombreux cas, elles pourraient et devraient même faire partie des paramètres de l'élaboration de leur ligne de conduite, ce qui suppose une meilleure connaissance de soi, une connaissance de sa nature, c'est-à-dire de ses incapacités aussi bien que de ses capacités. Ces contraintes et ces limites sont susceptibles de diminution ou d'aggravation, de déplacement ou de renforcement, tout comme les pouvoirs sont susceptibles de culture. L'idée banale sur laquelle la nature humaine se cultive, qu'on applique généralement aux pouvoirs, aux capacités, doit être aussi appliquée à ce qu'on fait des incapacités. Une forme de responsabilité à l'égard de cette culture, à l'égard de ce que nous faisons de la nature humaine elle-même, devient manifeste dès qu'on envisage la chose sous cet angle. Alors bien sûr, il reste beaucoup de questions dans l'obscurité. J'ai parlé de tout indissociable, d'unité constitutionnelle entre rationalité et connaissance des limites, enfin, et rationalité et limite et faiblesse de l'autre côté, la nécessité d'une connaissance de ces limites. On ne peut pas en rester à cette idée d'un tout indissociable. Il faudrait regarder de beaucoup plus près comment les considérations de rationalité et les considérations sur les incapacités relatives s'articulent. Il faudrait expliquer en détail, sans doute sous des formes très très diverses selon les contextes et les objets, comment s'articulent la rationalité et psychologie. Et on ne pourrait pas évidemment en rester à l'idée pourtant importante dont nous sommes tous familiers, à savoir que devoir, le principe très important, devoir implique pouvoir. Donc si un être est rationnel, il doit avoir les capacités pour répondre à l'appel de la rationalité. Donc tout cela reste dans l'ombre à l'issue de cet exposé. J'espère simplement avoir montré que une des motivations importantes du concept de l'usage du concept de nature humaine, c'est-à-dire de signaler ce lien, ce tout indissociable de la rationalité et des limites psychologiques, n'est pas perdu dans la philosophie aujourd'hui. Il s'agit toujours de le signaler et de le comprendre. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.